parole du jour avec le Père Willem.
L'alliance dans les abîmes, c'est-à-dire éliminer celui qui dérange, dans Marc 14, 1 et suivant. C'était la Pâque et les azymes dans deux jours. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le saisir par ruse ou pour le tuer. Car ils disaient, pas pendant la fête, qu'il n'y ait pas un tumulte du peuple. L'annonce du complot est la porte d'entrée de la passion. Elle se fait avec, en toile de fond, la fête de la Pâque et des azymes. Par excellence, c'est la fête de la libération. Alors, quelle ironie! On a vu les prêtres et les scribes hésiter plusieurs fois au sujet de Jésus. Maintenant, ils ont pris leur décision, le saisir et le tuer. Reste à savoir comment le concrétiser. Là se pose la question de la foule très nombreuse en cette période de fête. La peur du peuple continue à être présente dans le chef des grands prêtres et des scribes. Ils réagissent selon leur logique de pouvoir. Un homme menace l'ordre établi et leur autorité. Il faut donc l'éliminer. Telle est la dynamique de la violence. Identifier, réduire l'autre au mal qu'il commet, ou plus subjectivement, à ce qu'on lui reproche. Ensuite, le faire disparaître avec l'illusion d'avoir résolu le problème, combattu et vaincu le mal, juguler la violence. Les puissants ne sont pas les seuls à entrer dans cette dynamique. C'est aussi la nôtre. Chaque fois que nous invitons celui ou celle qui nous dérange ou que nous nous en débarrassons, nous prenons soin de le faire sans nous mettre d'autres à dos. Ou, plus subtil encore, sans nous mettre à dos notre propre conscience, trouvant toutes sortes d'excuses pour justifier nos actes. Dans ce processus, notre intelligence est souvent mise à contribution, non pas au service de la vie, comme nous le voyons avec les grands prêtres et les scribes, comment le saisir par ruse, mais au service de nos propres intérêts, qu'il n'y ait pas un tumulte du peuple. Alors Marc nous fait entrer dans la passion de Jésus par la claire affirmation de l'enjeu, la violence qui veut le détruire. Il est donc à Béthanie, Jésus, dans la maison de Simon le lépreux. Il est étendu à table, comme les autres. Vient une femme, elle a un flacon d'albâtre d'un parfum de nard authentique, de grande valeur. Elle casse le flacon, elle lui verse sur Jésus, sur la tête de Jésus, le contenu de ce flacon. Il y en a certains qui s'indignent entre eux. Pourquoi faire cette perte de parfum? Jésus et les apôtres sont venus à l'écart, reprendre des forces après l'épisode du temple dont nous parlions. Et cette femme pose un geste fou, démesuré, étonnant aussi. Qu'est-ce qui la pousse à agir de la sorte? Le terme authentique est de la même racine que le mot foi. N'est-ce pas en effet un geste de foi qu'elle pose vis-à-vis de Jésus? Dans l'évangile selon Marc, le nom de cette femme ne nous est pas révélé. Pourtant, Jésus prédit qu'on proclamera au monde entier ce qu'elle a fait. Cet anonymat n'est-il pas une façon de reconnaître l'intuition féminine face à la souffrance des autres? Cette capacité à se brancher sur le vécu de l'autre et à lui être présent, sans chercher de solution à cette souffrance, sans la fuir, mais tout simplement en prenant soin de l'autre, là se trouve peut-être la pierre d'achoppement des apôtres. Encombrés par leur angoisse, peut-être aussi par la recherche d'une solution, les apôtres s'indignent en réaction au geste de la femme. Sont-ils agacés par cette attitude qu'ils jugent totalement déplacée, inefficace, ou encore une histoire de femme? On sent la tension qui les tient et les intolérances qui condamnent. Ils sont incapables d'y voir une qualité de présence à Jésus. Peut-être l'attitude de la femme les renvoie-t-elle à leur incapacité à faire leur cette présence à Jésus et à eux-mêmes. Leur sentiment d'impuissance se transforme en colère contre elle. Les 300 deniers à donner aux pauvres ne sont qu'un prétexte à la critique. En cet instant, ils ont bien autre chose en tête que les pauvres. Les disciples voudraient enrayer cette machine destructrice qui les menace, ouvrir les yeux de ceux qui persécutent Jésus et veulent le tuer. Ils aimeraient tant qu'ils se convertissent. Et si cela ne marche pas, ce qu'ils désireraient au minimum, c'est sauver Jésus et se sauver eux-mêmes. Ils voudraient une solution. Ils sont tellement aveuglés qu'ils demeurent comme absents. Bien sûr, le parfum versé par la femme n'est pas une solution. Il ne va rien changer. Mais elle est là vraiment présente à Jésus. Elle ne cherche pas de solution, ni ce qu'elle devrait faire. Alors que les disciples se débattent dans leur impuissance, cette femme a su entrevoir le seul pouvoir qui lui reste, est tout simplement présente à Jésus qui lui aussi souffre. Sa présence silencieuse, sa tendresse, son toucher, cette odeur de parfum lui font du bien. Elle l'aide à sortir de cette puanteur et de cette tension qui ne cesse de le tenir dans un étau. Voici un témoignage actuel. J'ai expérimenté lors du décès de ma sœur, elle avait 13 ans et moi 15 ans, combien ce genre de présence toute simple, mais entière, authentique, m'a fait du bien et m'a rendu à moi-même quand j'étais dans le gouffre. Face à la souffrance, à l'inacceptable, comme par exemple à la mort d'un enfant, on se sent tellement démuni face à celui qui souffre. Beaucoup croient qu'il faut dire ou faire des tas de choses, trouver une explication, une solution. Mais il n'y a ni explication, ni solution. La seule attitude qui fasse vraiment du bien est une qualité de présence comme celle de cette femme. Voilà pourquoi cette femme est là, tout simplement, au début de la passion, en contraste avec l'attitude des comploteurs et celle des disciples. Elle fait pour Jésus ce que lui-même a fait pour tant d'autres qu'il a guéri. Rappelons-nous cette présence sans jugement, ni solution, et ce contact. Signe d'immense espérance, comme si elle avait accepté de reprendre le témoin dans une course de relais, que ce soit d'être bon pour Jésus. Voilà pourquoi il affirme, partout où sera proclamée la bonne nouvelle, au monde entier, là aussi, ce qu'elle a fait, on en parlera en mémoire d'elle. Mémoire d'écriture, ouvrir les croisées de la mémoire comme un carnet de route pour une traversée aléatoire sur les brises marines. Ouvrir les baies de l'écriture comme une lettre sainte sur le point de fuite d'un ciel écartelé en témoignage de la présence des fragments d'une mémoire craquelée. Le mal du monde est là, depuis toujours. dans le refus de l'hospitalité, premier feu sacré de l'histoire humaine, avant même le surgissement de Dieu. C'est le mal du monde et c'est celui dont souffre la folle repudimange. C'est tout simplement ça, la passion. Tout simplement, oh, c'est tout cela, la passion. Oui, il y a de la souffrance aujourd'hui. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de morts et beaucoup d'oubliés.